guéris ton passé. Je... Pas de punition. En Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. C'est Romains, ce même chapitre 8 de Romains qui commence comme ça. Aucune condamnation. Comment est-ce que je suis prêt à vivre le pardon ? Est-ce que ce matin, j'ai envie de dire au Seigneur, augmente-moi la foi ? On entend souvent ça, hein, Seigneur, envoie le feu, envoie le réveil, envoie plein de choses. Fais-moi vivre ton pardon, profondément. Apprends-moi à pardonner. Je pense que la foi ne peut pas se développer dans notre vie en dehors d'une vie de pardon. Est-ce que c'est quelque chose qui m'interpelle, qui me touche, que j'ai saisi ? Est-ce que c'est encore quelque chose ? Dans le contexte, il est dit, si vous avez la foi comme une graine de sénévé, bon, on dit un grain de moutarde, si on revient au grec, alors pour moi qui suis jardinier, hein, c'est un morus alba, un mûrier. C'est un arbre qui a des très très grandes feuilles. C'est très très beau. Si j'avais de la foi comme cela, je deviendrais comme un grand arbre. Est-ce que je suis prêt à laisser le Seigneur implanter dans ma vie des graines qui vont se développer, qui vont prendre leur essor, qui vont prendre leur croissance? Pour qu'une bonne graine se développe, il faut de la bonne terre. Il faut de l'eau, il faut de l'engrais, il faut du soleil. Si je laisse le péché dans ma vie, le non-pardon, c'est comme si je restais dans de la mauvaise terre, la mauvaise graine, de l'eau trouble, pourriture du mauvais temps. Ça ne pousse pas. Est-ce que je suis prêt à donner au Seigneur les conditions nécessaires pour que cette graine, elle aille jusqu'au bout de son développement, jusqu'à porter du fruit ? Pas entraver, ne pas étouffer l'œuvre que Dieu veut faire dans ma vie. C'est un défi de laisser Dieu jeter la semence et de faire les pas de foi nécessaires pour que ça se développe. Une deuxième année de vie chrétienne, j'avais assisté à un séminaire à Saint-Étienne et le thème c'était la plénitude de l'esprit. Et celui qui apportait cet enseignement, cette méditation, ça m'a marqué pour le reste de mes jours. Il disait, voilà, c'est quoi la plénitude de Dieu, la plénitude de l'esprit ? Eh bien, c'est comme de marcher. Ah, c'est une petite illustration pour que vous gardiez. Seigneur, augmente-nous la foi. Mais pour cela, il faut déjà au quotidien avoir cette ouverture, cette attitude de cœur qui est capable de dire oui Seigneur, le dire en conscience, pas de manière légère. Une première année de conversion, c'était assez compliqué pour moi. Avec tout ce que j'avais vécu, je me disais, mais qu'est-ce que Dieu peut faire de ma vie. J'avais une image tellement négative de moi, je disais, ça va être compliqué d'en faire quelque chose. Et puis en même temps, comme j'étais un peu... Je disais, Seigneur, si tu veux que j'aille en Amérique, en Afrique, en Asie, où tu veux, j'irai. J'ai attendu la réponse et puis il s'est rien passé. Par contre, ça m'a dit, je veux te planter sur la région de l'Orient. Un jour, et ça je suis sûr de l'avoir reçu, un jour tu seras jardinier à la ville de l'Orient. Travaille sur le temps long. Abandonne toutes les idées. pouvoir dire oui. Après, au collège biblique, hein, on a jeûné pendant je ne sais plus combien de temps. Et puis, moi, je devais partir, finir le collège fin mars 1980. J'ai écrit au Conseil national en disant « Je suis disponible pour aller n'importe où ». Puis on a eu la visite de Jacques Vavasseur, le président de l'époque. Puis je lui ai dit « S'il y a besoin de quelqu'un au Mans, s'il y a besoin de quelqu'un à Jeun, s'il y a besoin de quelqu'un, moi, je suis disponible. Partout où le Seigneur veut que j'aille, moi, je suis prêt. » Puis la réponse est venue quelques semaines après. Le Conseil national s'est réuni et a dit « Michel, il retourne à Lorient ». Donc j'ai été scotché à Lorient et je suis toujours là. Donc je n'ai pas fait le tour du monde, je n'ai pas été en Asie, je n'ai pas été en Afrique. Je pense que si vous posez la question peut-être à Corinne, elle pourra vous raconter ça peut-être un jour. Mais là, elle était en Afrique déjà une fois, elle préparait à y aller. Voilà, c'est un appel qui durait... que Dieu a placé dans son cœur peut-être il y a des dizaines d'années. Comment est-ce qu'on gère ce « oui Seigneur » où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Et je suis prêt à pardonner où tu veux, comme tu veux, quand tu veux, pour qui tu veux. Pour un des secrets de cette foi qui grandit dans nos vies, c'est notre capacité à pardonner. Une image m'est revenue en tête tout à l'heure. Il y a un couple qui nous a visités il y a quelques semaines, la famille Richard, Patrick, qui a prêché ici il y a quelques semaines. Quand ils étaient ici, il y a eu un orage chez eux, ils viennent de changer d'appartement. Et quand ils sont rentrés, une partie était inondée, leur meuble était dans un piteux état. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une gouttière sur la véranda. Et la gouttière était bouchée. L'eau s'est accumulée, ça a débordé. L'eau ça a été au travers de tous les joints. Et puis, et apparemment, ça durait depuis longtemps. Tout le carrelage de leur véranda est soulevé avec le gel, le dégel. Il y a pour 12 000 euros de travaux. Si on ne cure pas les gouttières, ça fonctionne moins bien. Le pardon, c'est un petit peu ça, hein, c'est nettoyer les gouttières par où coule le Seigneur, la parole de Dieu, la grâce de Dieu. Est-ce qu'on pense à nettoyer les gouttières? Oh, c'est une image, hein. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais voilà, parfois les images nous aident aussi, voilà, à prendre aussi des décisions. S'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans nos vies, c'est difficile de dire au Seigneur, augmente-moi la foi. La foi se développe dans nos vies quand on retrouve cette innocence, cette beauté du pardon. J'aimerais juste vous rappeler la vie de trois hommes qui ont développé la foi. Bien sûr, le premier d'entre eux, c'est Abraham, qui est la question du père de la foi. Gédéon, on va voir dans son histoire qu'est-ce qui peut nous interpeller. Et puis Jonas. On prend un texte dans Genèse 12, le verset 1, texte ultra connu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je disais, pour moi, au lieu de quitter, le plus dur pour moi, ça a été de revenir. Quitter, je savais faire. Quand j'avais 20 ans, je ne voulais plus, je voulais quitter l'usine, je voulais quitter la société, je voulais quitter toute forme de contrainte en me disant, waouh! Toute la vie, je vais être artiste, je vais être libre, je vais faire ce que je veux. Et puis le Seigneur m'a dit, non pas tu retournes dans le moule, mais tu suis le chemin que j'ai tracé pour toi. Tu te réinsères dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, et puis tu mènes une vie pépère. Sur un certain plan, après l'aventure, elle est ailleurs, elle est spirituelle. Elle est intérieure, mais chacun, l'appel est différent. Pour certains, c'est quitter. Pour d'autres, c'est revenir quand on ne voulait pas. rentrer dans un certain moule de la société. Que c'est, Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, quitter des dépendances, quitter. Au fond, chacun de lui sait ce qu'il doit quitter, ce qu'il doit accepter. Certaines sécurités territoriales, affectives, sentimentales. Chercher, trouver un chemin spirituel, une aventure avec Dieu. Au chapitre 22 de la Genèse, il y a un deuxième quitté après ces choses. Dieu mit Abraham à l'épreuve, lui dit Abraham. Il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham a dû quitter plusieurs choses. Son pays, sa patrie, la maison de son père, et il a dû être errant dans le pays de Canaan, et puis il a dû offrir ce qui pour lui peut-être comptait le plus. Quelles sont les choses que Dieu nous a demandé de quitter? Est-ce qu'on était bouillant pour le faire? Seigneur, je te suivrai où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Ça, c'est la théorie. C'est le désir. Et puis après, arrive la pratique. Offre-moi ce que je t'ai donné, ce qui compte le plus pour toi. Et Abraham, il nous a dit dans le commentaire dans l'hébreu, lui, il pensait que tu étais capable de ressusciter les choses. Donc il s'est dit, même si j'offre ce que j'ai de meilleur à Dieu, il va me le redonner autrement. Peut-être qu'on a reçu des dons auxquels on est attaché. Le Seigneur dit, voilà, est-ce que tu veux me laisser ces dons? Peut-être qu'on ne les retrouvera pas, qu'on retrouvera autre chose. Peut-être qu'on les retrouvera autrement. Je pense que quand on a des dons artistiques très forts, des dons pour telle ou telle chose, c'est bien d'aller de dire, Seigneur, je ne veux pas compter seulement sur mes qualités, mes dons, mais voilà, je te les rends, bonifie-les, magnifie-les, fais-en quelque chose de différent. Il y a un terme que j'ai appelé la mobilité intérieure. Bouger dans notre vie, s'en aller, c'est pas toujours pour conquérir le monde et faire trois fois le tour de la terre. Parfois, c'est déjà en nous-mêmes. Moi, j'avais énormément de peine à quitter les musiciens avec qui j'étais. J'aime beaucoup cette vie-là. Je disais, moi, vivre avec des musiciens, c'est ça ma vie. C'est ça ma vie. Puis ça, on m'a dit, va-t'en, retourne chez ta mère. C'est pas quitte ton père, c'est retourne chez ta mère. Ça a mis quelques mois. Et je peux vous dire que en même temps, le Seigneur n'a pas toujours été tendre. Je faisais du mime à l'époque, puis à chaque fois que je me préparais, le Seigneur me criait, va-t'en, qu'est-ce que tu fais là? Tu es où là? Tu fais quoi? Va-t'en. Je fais quoi? Il m'a fallu quelques mois pour revenir en arrière, accepter ce que je disais. Mobilité intérieure. Le Seigneur, fais-moi bouger. On prend un texte ensemble dans les Juges. Josué, Juge Ruth, Juge 6, les versets 11 à 14. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian, des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut, lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Parce que le Seigneur s'est approché de chacun d'entre nous. Et puis il nous aurait dit, lève-toi, vaillant héros. Dans un premier temps, ça fait du bien. Il nous a dit qu'en fait, là, il était planqué dans un coin, Gédéon, en train de battre ses céréales, parce que tout le monde avait peur des Madianites qui régulièrement faisait des radis. À l'époque, ça se faisait. On pillait les villes, on pillait les champs, on pillait les demeures, on emportait tout ce que l'on pouvait trouver. Et puis, Gédéon, il se dit, mais voilà. Ça fait des décennies qu'on nous dit l'Éternel ici, l'Éternel cela, l'Éternel. Et puis, il se passe quoi? Puis, je lui dis, bah, c'est toi, puisque tu m'interroges, mais toi, tu vas y aller. Ça va être un peu difficile pour Gédéon. Deux fois, il va, on dit, mettre une toison devant Dieu. Il lui dit, voilà, si vraiment c'est moi qui dois le faire, je vais mettre une peau de bête dehors, et puis s'il y a de la rosée, eh bien, je saurai que c'est toi. Et puis le lendemain, ben non, il dit, est-ce que c'est vraiment ça? Non, alors on va faire le contraire. Et puis, voilà. À chaque fois, Dieu l'accompagne dans son manque de foi, dans sa faiblesse. Augmente-nous la foi, augmente-moi la foi. Parfois, quelles expériences, quelles toisons, quelle confiance dans la parole de Dieu, quelle confirmation j'ai besoin. Parfois, on a besoin de béquilles, et puis avant de les lâcher, il faut... On demande à Dieu, mais s'il y a telle chose, telle chose. Plus de moyens, plus de techniques, plus de marketing, plus de planification pour développer l'Église. Il y a plein de séminaires. C'était à la mode il y a une vingtaine d'années. Croissance de l'Église, tout ce qu'on peut faire. Gédéon avait une armée extraordinaire, il avait 32 000 soldats. 32 000. C'est pas mal. Puis Dieu lui dit, mais 32 000, c'est beaucoup. Donc tous ceux qui ont peur, tous ceux qui n'aiment pas aller au combat, tu les renvoies chez eux. Il y en a 22 000 qui s'en vont, il en reste 10 000. Puis Dieu lui dit, c'est assez. Non, ça ne marche pas. Dieu lui dit, on va faire encore une épreuve, un test. Tous ceux qui ont soif et qui vont aller boire, tous ceux qui vont mettre un genou et qui restent réveillés, tu les gardes. Tous les autres, tu les renvoies. Au bout du compte, il en reste 300 sur 32 000, c'est-à-dire 10%. Dieu va délivrer Israël de Madian avec ce vaillant héros qu'est Gédéon, et avec 300 hommes, avec 10%. Est-ce que vous donnez l'autorisation au Seigneur de faire dans votre vie la même chose avec 10%? C'est 1%. Ouais, j'ai mal... ouais, je faisais qu'en calcul. Un calcul, j'ai encore des soucis. Ouais, calcul mental. Donc la démonstration est encore plus forte. Avec 1%, Dieu va faire la même chose que 100% dans notre vie. Mais est-ce qu'on est prêt à lui donner l'autorisation ? Est-ce que l'on est prêt à dire Seigneur, merci pour les 1%, puis les 99 autres, tant pis, c'est toi qui... Dieu veut se glorifier dans notre vie. C'est lui qui veut faire les choses. Et il veut faire les choses même si c'est avec peu de moyens. On lit encore un texte dans le livre de Jonas. C'est toujours difficile à trouver, Jonas. Oups, comme j'ai pas mis le petit point de repère, voilà. Jonas, chapitre 1, les versets 2 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Va-t'en, quitte ton pays, vaillant héros, va délivrer Israël. Et on achète un billet d'avion pour partir au Club Med en vacances. Ce qu'il a fait Jonas, hein. Parti en Espagne, sous les clémentines, les mandarines, les parties. Augmente-moi, augmente-nous la foi. Alors, va-t'en, va dire à Ninive que 40 jours, et Jonas s'enfuit loin de la face de l'Éternel. Vous vous rappelez comment on a commencé tout à l'heure ? Oui, Seigneur. Jonas, c'est... Non, Seigneur. J'ai pas envie. C'est pas normal, c'est pas juste. J'ai pas envie. Et en plus, tu es capable de conduire Ninive à la repentance. Jonas, chapitre 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas se leva à la Ninive selon la parole de l'Éternel. Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, disait, encore 40 jours. Et Ninive est détruite. Verset 10, Dieu vit qu'il agissait ainsi, qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Jonas, c'est un râleur, hein, t'es pas content. Il va se coucher sous sa genêt, puis il va râler, il va pas être content, il va... Mais Dieu lui adresse l'appel une deuxième fois. Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Il regrette rien. C'est Paul qui nous dit ça dans les Romains. Même si une fois j'ai fait non, non, le Seigneur veut m'apprendre à dire oui. Augmente-moi la foi. Quel modèle vous préférez ? Abraham, Gédéon, Jonas. Parfois, on est un mélange des trois. Il nous a raconté la vie d'Abraham à peu près sur 30 à 50 ans, ses expériences marquantes. Il est mort à 175 ans. Dieu l'a appelé, il avait 75 ans. On ne raconte pas les un siècle de vie avec Dieu profonde d'Abraham. Mais en tous les cas, il a été fidèle, il a été jusqu'au bout. Gédéon a été juge pendant 40 ans. Si vous lisez son histoire, la vie de ses fils, c'est moins drôle après. Lui a vécu des choses, mais transmission s'est peut-être pas faite. Et puis Jonas, je ne sais pas s'il aura continué à râler, mais en tous les cas, il aura appris une chose. De Jonas, on n'a que cet épisode-là de sa vie. Qui est un modèle de croissance, d'augmente-nous la vie. Modèle d'intercession, combattant Abraham. Modèle de faiblesse, l'incertitude, de remise en question chez Léon. Est-ce que c'est moi vraiment le vaillant héros ? Jonas qui s'enfuit, que Dieu doit ramener. C'est quoi augmente-nous la foi ? Est-ce que c'est toujours plus ? Toujours plus de quoi ? Plus l'exploit ? Plus de quantité ? Plus de vie profonde ? Plus de qualité de vie ? Je pense que Léon était jeune. La jeunesse, c'est les exploits. Plus d'évangélisation, plus de ceci, plus de cela. La maturité, la régularité, la fidélité, la vieillesse, plus de densité, de plénitude, de certitude tranquille. Comment est-ce qu'on voit le déroulement de notre vie ? Comment est-ce qu'on dit au Seigneur, augmente-moi la foi, mais jusqu'au bout ? Comment garder l'ardeur, l'enthousiasme, pas faire de compromis ? J'aimerais lire un texte avec vous dans Éphésiens. Au chapitre 3, les versets 13 à 21. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux, sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Quand on dit au Seigneur, augmente-nous la foi, est-ce que c'est simplement toujours plus ? Toujours plus d'expérience, toujours plus de choses ? Ou est-ce que c'est au-delà de toute chose ? Est-ce que c'est Christ en moi, au-delà de ce que je peux penser, demander, avoir envie de connaître ? J'ai trouvé que ce texte était fort à propos. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. Nous pouvons restreindre Dieu. Et parfois, on a des bouffées spirituelles comme ça, puis on dit, Seigneur, augmente-moi la foi. Plus de choses, plus de dons, plus de services, plus de monde dans l'Église, plus de... Que le Seigneur puisse faire, peut-être pas toujours plus, mais simplement au-delà quand je mets Dieu dans ma petite case, dans ma petite maison, que je puisse ouvrir les portes, les fenêtres, et puis voir peut-être au-delà. On lit encore un texte dans Luc, au chapitre 2. Luc 2, 52, j'aime beaucoup citer ce texte. Je me suis trompé dans ma référence. C'est Luc 80, 2, 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. L'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Non, voilà, c'est Luc 2, 52, c'est ça. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Parfois, les références nous jouent des... Mais deux fois, il nous est dit, dans cet évangile de Luc et au démarrage, l'enfant croissait, se fortifiait en esprit. Oui, ça c'était Jean. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Que tu puisses croître et que je diminue. Dans le temps de prière qu'on a eu tout à l'heure, Dalila, c'est ce qu'elle a prié. Tu te rappelles plus ? C'est... Que Jésus puisse grandir en moi au-delà. Au-delà de ce que je... Pas en deçà. Au-delà. Pas plus ou moins. Mais au-delà. Quelque chose de nouveau. Je vous laisse avec cette réflexion en ce 14 juillet. Voilà, que le Seigneur nous bénisse.
Nous allons partager le repas du Seigneur ensemble. Ce repas n'est pas un repas d'habitude. Nous avons l'habitude de nous mettre à table matin, midi et soir en fonction de nos besoins. Et parfois ce sont des repas qui sont des repas habituels. Il ne s'agit pas de se rassembler autour de cette table chaque dimanche comme on se rassemble autour d'une habitude. C'est un moment particulier, c'est une invitation. Une invitation que Christ a d'abord prononcée envers ses disciples en leur disant « J'ai tellement désiré prendre ce repas avec vous. » C'était avant la crucifixion, c'était avant qu'il ne monte sur la croix et qu'il ne se livre totalement. Mais au cours de ce dernier repas, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Prendre ce pain, prendre ce jus de raisin, c'est faire un acte de commémoration, de mémorial, de rappel. De se dire, voilà le sens qu'a Christ dans ma vie aujourd'hui. On le dit souvent, ce qui nous différencie par rapport à d'autres branches du christianisme, c'est que nous croyons que le pain reste du pain. Et nous avons même changé le vin en jus de raisin. J'aime à rappeler que ça s'est passé dans les années, début des années 80, quand un garçon SDF qui était malade, alcoolique, s'est donné à Christ et qu'il ne pouvait prendre la Sainte Cène avec nous parce que c'était du vin. Et la communauté tout entière a dit, mais c'est pas le plus important que ce soit du vin ou du jus de raisin. Ce qui est important, c'est de prendre ce repas ensemble. Individuellement et ensemble. Je proclame ma foi et ensemble nous proclamons aussi que ce pain partagé, c'est le Christ qui s'est donné pour chacun d'entre nous. Et que ce sang qui a coulé c'est ce sang qui rappelle, qui est rappelé par ce jus de raisin et qui dit, voilà, sur ce linteau de porte, à l'instar des portes d'Israël au moment de la fuite de l'Égypte, sur cette croix, le sang a coulé et c'est la porte qui nous ouvre l'accès plein, entier, à la présence de Dieu. Le pardon est total. Il est parfait. Il n'y a rien à rajouter, ni par nos efforts, ni par notre propre justice. Le prophète Ésaïe disait, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse. Tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Un esprit de sagesse et d'intelligence. Un esprit de conseil et de vaillance. Un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture. Il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Tu veux bien rendre grâce pour le pain et la coupe, Christiane ? Amen. Dans la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il a rempli de ceci en mon corps qui est livré pour vous. Mangez-en tous. De la même manière que nous séparons un pain unique en autant de portions que nous sommes et même au-delà, Christ seul et lui seul s'est donné et a donné son corps pour que nous ayons la vie. Il est le pain vivant descendu du ciel pour nourrir ma vie. À la fin du repas, le Seigneur a pris une coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous. Autant le pain et la coupe ont été des propos qui ont scandalisé les Juifs qui étaient là et qui l'entendaient. Autant le Saint-Esprit ouvrant nos yeux et nos cœurs nous sommes émerveillés du salut que nous avons en Jésus-Christ, ainsi que ceux qui sont ancrés dans cette assurance. Christ est mon sauveur. Il est mort pour moi, il s'est donné pour moi. Ceux qui ont cette assurance qu'il est le Fils de Dieu, qu'il s'est livré sur la croix jusqu'à la mort. Et parce qu'il est le prince de la vie, la parole éternelle, il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis maintenant à la droite du Père. Et il vient, il revient. C'est mon assurance, mon espérance. Alors, si cela est ma foi, que je puisse partager simplement le pain et la coupe, mais si je ne me sens pas prêt, s'il y a de la colère, s'il y a l'absence de pardon dans ma vie, que je puisse m'abstenir. C'est à moi de juger où j'en suis avec le Seigneur. Amen.
Ce que tu es, merci pour tout ce que tu fais, merci Jésus, car tu combles ma vie, Seigneur, merci, merci pour tout ce que que tu fais. Merci Jésus, car tu combles ma vie. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais.